Il y a quelques années, je me suis posé une sérieuse question. Quels sont les sujets de prière les plus importants pour ma vie ? Je voulais déterminer cela pour prier de la bonne manière. J'ai écrit une liste assez longue. Mais en fait, cette question était à la fois bonne et mauvaise. Bonne question, Manu, parce qu'il est important de prier pour les bons sujets. Mais mauvaise question, Manu, parce que... Pourquoi ? Parce que j'étais davantage centré sur moi que sur Dieu. Les bonnes questions à se poser sont plutôt celles-ci, elles vont s'afficher. Pourquoi Dieu veut-il que je prie ? Une autre question, quel sujet de prière réjouisse le cœur de Dieu ? Là, on va loin, là. Et quel sujet aussi transforme ma vie et celle des autres ? Quels sont les sujets qui ont un impact fort dans ma vie et dans celle des autres ? C'est ce que nous allons voir ce matin dans la parole de Dieu. Nous continuons notre série de messages sur la lettre de Paul aux chrétiens de Colosse. Paul a certainement écrit cette lettre en prison. Il a l'air de ne jamais avoir rencontré les chrétiens de Colosse. Et c'est grâce à Épaphras que Paul a pu connaître cette église. Épaphras est certainement celui qui a fondé cette église. Notre cher Épaphras a donné de bonnes, mais aussi de mauvaises nouvelles. Voici les bonnes nouvelles. Les croyants, on l'a vu dimanche dernier, les croyants ont reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. On voit cela au verset 6. Ils ont la foi dans le Christ Jésus et ils ont de l'amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. On voit cela dans les versets 4 et 5. Et encore le verset 6, la bonne nouvelle de Jésus-Christ porte du fruit chez eux et va de progrès en progrès. Paul s'en réjouit de cela. Mais Épaphras, comme je l'ai dit juste avant, a aussi de mauvaises nouvelles. Les croyants sont en danger à cause de mauvaises influences. On le comprend en lisant toute cette lettre. Il y a des prédicateurs, on ressent qu'il y a des prédicateurs itinérants qui détournent les croyants du véritable évangile. Ces enseignants ont une très forte influence, car ils condamnent ceux qui ne vont pas dans leur direction. Ces enseignants amènent les croyants dans un système philosophique, dans des traditions légalistes, dans le culte des anges, dans des connaissances secrètes et profondes qu'ils détiennent, dans une sagesse qui a pour fondement des traditions humaines et dans des visions auxquelles ils se livrent. Pas mal de gens encore aujourd'hui qui sont très attirés par tout ça, n'est-ce pas ? Paul écrit donc cette lettre aux chrétiens de Colosse pour corriger ses erreurs et ses fausses doctrines. Et il proclame la supériorité et la toute suffisance de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de sensations fortes, de sagesse extraordinaire trouvée dans la philosophie grecque, etc. Vous n'avez pas besoin de tout ça, les amis. Vous avez tout en Jésus-Christ. Après un rappel du contexte, revenons maintenant à notre question de départ. Quels sujets de prière réjouissent le cœur de Dieu ? Quels sont les sujets qui auront un impact sur ma vie et sur celle des autres ? C'est au travers de la prière de Paul que je vous invite à trouver nos réponses. Lisons ensemble Colossiens, chapitre 1, les versets 9 à 12. Alors je vous laisse le temps de chercher dans vos bibles, dans vos smartphones, Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 12. Donc ça va s'afficher, mais le plus important c'est que vous l'ayez sous vos yeux pour pouvoir bien suivre. Colossiens 1, 9 à 12. Je cite. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous portez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Fin de notre lecture. Quel sujet de prière réjouisse le cœur de Dieu et transforme notre vie et celle des autres ? Eh bien, le premier sujet, c'est connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Je recite le verset 9, l'apôtre Paul dit ceci, « Donc nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Paul prie que Dieu donne aux croyants une pleine connaissance de sa volonté, une entière sagesse, un parfait discernement. Nous entendons ici connaissance de la volonté de Dieu, donc connaissance, sagesse, discernement. Connaissance, sagesse, discernement. Il ne demande pas juste un petit peu, vous remarquerez qu'il écrit pleine connaissance, entière sagesse, parfait discernement, pleine, entière, parfait. Enfin, il veut tout pour l'Église, n'est-ce pas ? Nous savons que la volonté de Dieu est écrite pour nous dans la Bible, sa parole. Enfin, j'espère que vous savez cela. Parfois, il y a des gens qui disent « Mais quelle est la volonté de Dieu ?» et ils se décarcassent à chercher la volonté de Dieu quand celle-ci est dans sa parole. Bien sûr, la parole de Dieu ne nous dit pas tout le temps d'aller à droite, à gauche, quelle brosse à dents je vais prendre demain, hein, et on ne va pas jusque-là, mais quand même, il y a suffisamment de choses pour nous aider à grandir et à saisir ce que Dieu attend de nous. Nous devons donc lire et méditer la parole de Dieu, la Bible, pour mieux connaître la volonté de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de l'action surnaturelle du Saint-Esprit pour mieux saisir ce que Dieu attend de nous et pour une compréhension approfondie des choses spirituelles. Voilà pourquoi la prière est indispensable. Dans sa prière, Paul ne s'arrête pas à la connaissance de la volonté de Dieu, mais il ajoute la sagesse et le discernement parce que nous avons tous besoin de savoir discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Et nous avons aussi besoin de savoir appliquer la volonté de Dieu à notre situation quotidienne, aux situations compliquées de la vie. Et moi, ça me fait penser à cette génération du numérique dans laquelle nous sommes, cette génération hédoniste à la recherche du plaisir, cette génération dans laquelle nous sommes, on peut se retrouver parfois ou souvent dans des situations compliquées, mais comment je peux appliquer la volonté de Dieu dans telle ou telle situation ? Je suis au travail, mais comment je peux témoigner de ma foi alors qu'il y a tellement de choses parfois qui sont compliquées ? On est face à plein de questions. Comment je fais avec mes enfants ? Etc, etc. Et donc, c'est utile, non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais de savoir comment elle peut s'appliquer à ma vie. De là, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de discernement. Vous voyez ? Paul prie que la connaissance de la volonté de Dieu, cette connaissance de Dieu occupe toute la pensée des Colossiens et qu'elle s'applique à tous les aspects de la vie, de leur vie, afin qu'ils se conduisent selon la volonté de Dieu. S'ils sont remplis de cette connaissance, ils ne subiront pas l'influence dont nous avons parlé tout à l'heure, l'influence des philosophies ambiantes, etc. Et en utilisant le mot « connaissance », Paul vise peut-être particulièrement la philosophie gnostique qui mettait l'accent sur l'acquisition d'une connaissance spéciale et qui combattait énergiquement l'Évangile. Un autre texte de Paul, dans un autre livre, souligne l'importance d'une œuvre surnaturelle de Dieu en nous, dans notre pensée, pour discerner ce qui plaît à Dieu. Est-ce que vous connaissez ce texte ? Ou est-ce que ça parle de transformation de l'intelligence pour discerner ? Hein ? Comment ? Non ? Romains 12. Yeah ! Bravo, Jeannette. Romains 12. Verset 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donc on a le mot discernement qui est là, et après ça dit ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc ça veut dire qu'à nous tout seuls, on ne sait pas vraiment ce qui est juste, les amis. On a besoin de l'action du Saint-Esprit pour saisir ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Quel sujet de prière réjouisse le cœur de Dieu et transforme notre vie et celle des autres ? Deuxièmement, porter comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Porter comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Paul écrit ici la conséquence de ce qu'il a demandé avant. C'est la conséquence d'un croyant motivé et dominé par la connaissance de la volonté de Dieu. Quand nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, nous pouvons ensuite vivre une vie riche d'œuvres bonnes. Une vie qui plaît à Dieu. Le terme « fruit » peut faire penser aux fruits de l'esprit, hein, que nous retrouvons dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, que je cite, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Et si vous voulez les voir en profondeur, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos ou messages sur le site de l'Église ou dans la chaîne YouTube de l'Église et vous avez une série de 3 messages sur les fruits de l'Esprit. Nous pouvons aussi penser, quand on voit ces fruits, à plusieurs autres fruits, un témoignage qui bénit, des personnes qui placent leur foi en Jésus, des vies transformées, une croissance en sainteté, la louange, l'aide financière et matérielle d'une personne dans le besoin, une église qui grandit, etc., etc. Les fruits sont nombreux. Le but de la connaissance de la volonté de Dieu est de vivre une vie riche d'œuvres bonnes qui réjouit le cœur de Dieu. Le but, et c'est important de souligner cela avant d'avancer, le but n'est pas de gagner l'approbation de Dieu ou le ciel par le bien que nous faisons. Nous avons une toute autre motivation quand nous vivons une vie riche d'œuvres bonnes. Nous faisons le bien parce que le ciel et l'approbation de Dieu ont été acquis à la croix, où Jésus-Christ est mort à notre place. Amen. C'est exclusivement en plaçant notre foi en Jésus que nous pouvons avoir la vie éternelle. À la croix, on voit un amour et une bonté de Dieu, une grâce de Dieu tellement immense que nous n'avons qu'une envie, exprimer à Dieu toute notre reconnaissance par une vie riche d'œuvres bonnes. Que l'élan qui nous pousse à vivre une vie riche d'œuvres bonnes, c'est notre reconnaissance envers ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Quel sujet de joie, plutôt de prière, réjouisse le cœur de Dieu et transforme la vie et celle des autres. Troisièmement, progresser dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est énorme. Verset 10, vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu.
prière plus centrée sur Dieu que cela, on ne peut pas.
Connaître Dieu intimement est ce qu'il y a de plus important au monde.
Vous êtes d'accord avec cela ?
Le oui était petit.
Est-ce que on est convaincu de cela ?
Que ce qu'il y a de plus important au monde, c'est de connaître Dieu intimement. En suivant le raisonnement de Paul dans sa prière, on voit que l'obéissance à la volonté de Dieu a un impact sur notre connaissance de Dieu. Intéressant. Ça a un impact sur notre connaissance intime de Dieu. Plus nos pensées sont remplies de la volonté de Dieu, plus on ressemble à Jésus-Christ. Ok ? Mais plus on ressemble à Jésus-Christ, plus on progresse en connaissance, dans notre connaissance intime de Dieu. Vous m'avez suivi ? Ça va ? Mais maintenant, je vais donner le texte dans un autre sens. On peut l'écrire à cause du grec. On peut écrire ce verset 10 ainsi : vous ferez des progrès par la connaissance de Dieu. On peut aussi donner ce texte de cette manière. Et je crois que les deux sont... On peut être pleinement d'accord pour les deux sens. Et ce sens, c'est que la croissance dans la vie chrétienne ne peut se vivre que par la connaissance de Dieu. Plus on grandit dans notre connaissance de Dieu, plus on grandit spirituellement, dans notre foi, dans notre comportement. Et donc, vous avez entendu les deux, c'est un peu bizarre de dire les choses ainsi, mais plus je grandis dans mon obéissance à Dieu, plus je connais Dieu intimement. Mais c'est aussi l'inverse. Plus je connais Dieu intimement et plus je grandis dans une vie riche d'œuvres bonnes. Vous voyez ? Mais une bonne question est celle-ci. Est-ce que nous connaissons vraiment Dieu ? Voulez-vous savoir si vous connaissez vraiment, si vous connaissez vraiment Dieu intimement ? Alors écoutez cette citation d'un homme qui a connu Dieu. On peut la lire ensemble, enfin vous pouvez la voir projetée ici. La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puisse jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense qu'il appelle son Père. Waouh ! Une autre citation. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis ? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Vous avez vu l'homme qui a écrit cela, Charles Spurgeon, un homme remarquable, prédicateur, évangéliste, il a écrit plusieurs livres. Quand il a écrit cela, il n'avait que 20 ans. Ça donne quelques claques ce matin pour en voyant la maturité d'une personne de 20 ans. Est-ce que nous pouvons en dire autant sur notre connaissance intime de Dieu ? Est-ce que la connaissance de Dieu nous pousse à l'aimer davantage, à l'adorer de manière plus profonde et à le servir avec une reconnaissance toujours plus croissante ? Mes amis, que la connaissance de Dieu soit ce que nous recherchons par-dessus tout pour mieux l'adorer et le servir. Quel sujet de prière réjouisse le cœur de Dieu et transforme notre vie et celle des autres ? Quatrièmement, expérimenter la puissance de Dieu pour persévérer avec joie dans l'épreuve. Expérimenter la puissance de Dieu pour persévérer avec joie dans l'épreuve. Verset 11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. La vie est faite d'épreuves, et je pense que je n'ai pas besoin de faire un long discours pour le dire. Mais je rappelle que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Dieu, qu'il n'y aura plus d'épreuves. Et ça arrive, j'entends encore aujourd'hui, des prédicateurs, des livres écrits sur le sujet, de gens chrétiens, ou j'ai envie de dire soi-disant chrétiens, puisque là, ils vont dans un évangile dangereux, et qui proclament que ben, plus on est dans la présence de Dieu, et plus on va devenir riche, plus la vie va être géniale, et plus vous grandissez en maturité, moins vous avez de problèmes. Et là, aïe aïe aïe, parce que ce n'est pas du tout l'enseignement biblique. Jamais vous retrouverez cela dans la parole de Dieu. La vie chrétienne est aussi faite d'épreuves. Voir qu'il y a, plus, parfois, certains se disent, depuis que je suis chrétien, j'ai plus d'épreuves. Hein. Mais j'ai la paix. J'ai une paix que je n'avais pas avant. J'ai une tranquillité, une sérénité que je n'avais pas avant. Parce que je sais que je peux compter sur Dieu. Sur un Dieu qui est bon, qui prend soin de moi. Les épreuves font partie de la vie, les amis. Comme je l'ai dit au début du message, si on revient à l'église de Colosse, ils étaient en danger à cause de mauvaises influences. Les croyants vont s'éloigner du véritable évangile s'ils suivent toutes ces hérésies et ces fausses doctrines. Ils ont besoin de force, ils ont besoin de stabilité spirituelle, ils ont besoin de persévérance face aux pressions des cultures et aussi des différentes doctrines religieuses de leur époque, face aux prédicateurs qui sont là et qui attirent des personnes. Tout cela pour ne pas s'éloigner de Jésus-Christ. Ils doivent continuer à rester fidèles à Jésus, quelles que soient les circonstances. Et on sait très bien, au-delà de ça, que Paul qui écrit est en prison. Donc, il y a une certaine forme déjà de persécution. Donc, Paul pense aussi à la persécution et il se dit, je prie pour que vous teniez ferme et que la persécution ne vous amène pas à fuir ou à rejeter Jésus-Christ. Paul veut que les croyants continuent à grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Il veut qu'ils continuent à grandir dans la sagesse, qu'ils continuent à grandir dans le discernement spirituel. Paul veut que les croyants continuent à pratiquer le bien, à faire ce qui plaît à Dieu, à grandir dans leur connaissance de Dieu. Paul veut tout simplement que les chrétiens grandissent tout le temps, que rien ne freine leur croissance, mais qu'ils continuent, oui, à grandir, quelles que soient les circonstances. Voilà pourquoi il prie sans cesse pour eux. Voilà pourquoi il demande pour eux la persévérance. Nous aussi, nous avons besoin de cette force de Dieu pour tenir ferme dans les moments difficiles et pour ne pas nous éloigner de Jésus-Christ, de son véritable évangile et pour lui plaire à tous égards. Pour Paul, ce qui est surprenant, c'est qu'il parle de la persévérance comme une persévérance joyeuse. Il me semble que ce n'est pas souvent que l'apôtre Paul parle de persévérance avec la joie à côté, en tout cas de cette manière. Donc, il ne s'agit pas d'une persévérance où on serre les dents, hein, mais d'une persévérance joyeuse. J'ose dire que la joie dans ce texte vient de tous les autres sujets de prière que nous avons énumérés jusqu'ici. Quand nous sommes de véritables croyants, quand nous appartenons à Dieu, quand le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur, par son œuvre en nous, nous avons la joie de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Nous aimons la volonté de Dieu. Nous avons la joie aussi de réjouir le cœur de Dieu. Toutes les fois où nous faisons des choses qui plaisent à Dieu, cela réjouit notre cœur. Nous avons la joie aussi de mieux le connaître. Il n'y a rien de mieux que de connaître toujours plus notre Dieu. La joie aussi d'expérimenter sa puissance, son soutien dans les temps difficiles. On a tellement besoin de Dieu quand ça ne va pas, quand les temps sont rudes et difficiles. Dieu promet sa présence. Ça donne de la joie à cela. Et enfin, et ce sera notre prochain sujet, la joie d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa grâce. C'est notre cinquième point. Cinquième sujet, être reconnaissant pour la grâce de Dieu. Verset 12, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » Paul prie pour que les chrétiens de Colosse expriment leur reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Sa grâce est exprimée ainsi. Dieu nous a rendus capables. Dans un commentaire, c'est je crois John MacArthur qui dit « Il nous a rendus capables parce que nous sommes des incapables. » C'est bien dit. Dieu nous a rendus capables par la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, dans son royaume de vérité, dans son royaume de pureté. Et quand on parle d'héritage, ce n'est pas quelque chose de mérité. En tout cas, si vous connaissez un héritage, c'est quelque chose qui est réfléchi et que quelqu'un a prévu pour de donner à quelqu'un. Et on ne peut rien mériter. Dieu nous rend capables. Il prévoit pour nous, il donne cette bénédiction d'un héritage. Nous sommes co-héritiers, nous dit la Bible, avec Christ. Et vous savez quoi? Nous avons déjà notre héritage. Ça, c'est notre position dans la présence de Dieu. Mais un jour, nous pourrons jouir pleinement de notre héritage. Quand nous entrerons dans l'héritage que Dieu nous réserve, dans la présence, dans sa présence, nous jouirons, oui, de sa glorieuse présence, de la vie éternelle, de la nouvelle terre où la justice habitera, plus de maladies, plus de souffrances, plus de larmes, plus de péchés, plus le mal. J'ai hâte. Et enfin, nous jouirons de la pleine réalisation des promesses de Dieu pour nous. Amen. Je vous invite maintenant à conclure. Quel sujet de prière réjouisse le cœur de Dieu et transforme notre vie et celle des autres? Quels sont les sujets qui vont avoir un impact dans ma vie et dans celle des autres? Quels sont les sujets qui sont centrés sur Dieu et que je peux utiliser tous les jours, où je suis sûr que là, j'ai les bons sujets? Premièrement, connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, porter comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et cela pour plaire à Dieu. Troisièmement, progresser dans la connaissance de Dieu. On parle ici connaissance intime, une relation, pas juste intellectuelle. Quatrièmement, expérimenter la puissance de Dieu, cela pour persévérer avec joie dans les épreuves. Et enfin, être reconnaissant pour la grâce de Dieu. On pourrait résumer ces sujets de prière en deux mots. Maturité spirituelle ou croissance spirituelle. Mes amis, ne cessons de rechercher et de prier pour notre maturité spirituelle et aussi pour celle des autres. Cela réjouit le cœur de Dieu et transforme notre vie et l'Église de Jésus-Christ. Je finis avec deux exhortations. Premièrement, prions sans cesse. Avant ces sujets, Paul dit qu'il prie sans cesse, car il était convaincu que Dieu allait agir dans les croyants de Colosse. Prions nous aussi sans cesse à cause de la toute-puissance de Dieu, parce qu'il agira. Deuxième exhortation, élargissons nos prières ou nos sujets de prière. Paul a aussi prié pour une église qu'il n'a probablement jamais vue. Il n'a jamais vu les croyants de Colosse. Il a juste des nouvelles d'Épaphras. Nous, quand on connaît certaines églises, est-ce que, quand on entend des sujets, est-ce que nous prenons autant à cœur ces sujets? Vous qui êtes peut-être membre depuis peu, vous êtes dans l'église à Ozoir et il y a des missionnaires. Vous vous dites, mais je ne les connais pas. Mais est-ce que vous avez pris à cœur ces missionnaires?
Est-ce que nous avons tous ensemble pris à cœur ces missionnaires? Est-ce que nous prions pour d'autres églises? Mes amis, ayons en tête, comme l'apôtre Paul, l'église avec un grand E, la mission mondiale. Ne soyons pas de ceux qui prient juste pour leur nombril. Que nos prières dépassent notre vie et notre église locale, s'il vous plaît. Que nos prières soient pour l'église dans le monde entier. Pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. Et pour tous les croyants que nous n'avons jamais vus, mais avec qui nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, pardon de prier si peu. Pardon pour notre manque de foi. Pardon d'être autant centré sur nous, d'avoir cette tendance à être centré sur nous-mêmes dans nos sujets de prière. Apprends-nous à prier pour réjouir ton cœur et pour un impact puissant dans nos vies et dans celles des autres, pour ta gloire. Donne-nous de grandir dans la connaissance de ta volonté, de grandir en sagesse et en intelligence spirituelle, de porter toujours plus de fruits, toutes sortes d'œuvres bonnes pour te plaire. De te plaire, oui, dans tous les domaines de notre vie. De progresser dans notre connaissance intime de toi. D'expérimenter ta puissance pour persévérer avec joie dans l'épreuve. Et donne-nous de t'être reconnaissant pour ta grâce, de ne jamais oublier ce que Jésus-Christ a souffert, sa mort. Te demandons tout cela, non seulement pour nous, mais aussi pour ton Église dans le monde entier. Nous prions en particulier pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, qu'ils continuent à grandir, à témoigner de toi et à persévérer par ta toute-puissance. Nous prions qu'ils ne s'éloignent pas de Jésus-Christ et du véritable Évangile. Merci infiniment pour Jésus-Christ mort et ressuscité. Merci pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Merci aussi pour ton œuvre en nous et dans nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci Seigneur d'utiliser ton Église pour toucher tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Révèle-toi encore et encore pour que plusieurs passent de la mort à la vie. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.